Oui, c'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
BTFM.
Sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur Jet FM 91.2.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est le 5e volet, retour vers le futur. Au Sonolab, comme disait Gary, on est pleine de ressources. Aujourd'hui, je suis malheureusement pas accompagnée, je pense qu'on me donne un petit défi et j'espère le relever en vous présentant dans cette nouvelle émission les archives qui parlera de la garantie jeune. Mais qu'est-ce que c'est la garantie jeune ? Et pour répondre à cette question, on va écouter Alexandra Jor, journaliste à GTFM, qui a participé à organiser les micro-quartiers et radiométiers du Sonolab. Bonne écoute.
Alors, micro-quartier, c'est un projet qui a commencé à être réfléchi en 2017 et mis en œuvre en 2018. En fait, l'idée, c'était d'aller vers des gens qui habitent les quartiers politiques de la ville de Nantes en travaillant sur deux axes, l'insertion sociale et professionnelle, en utilisant l'outil radio, comme toujours avec le Sonolab, comme un prétexte pour créer du collectif, un travail sur l'élocution, sur la voix, la découverte aussi culturelle, professionnelle en l'occurrence. Donc voilà, ça s'est après décliné vraiment avec une partie avec des habitants du quartier de Bellevue et puis une autre qui s'est spécialisée petit à petit et qui a pris de l'ampleur sur le volet insertion professionnelle. Donc là, on a mis en place des partenariats avec la maison de l'emploi de Bellevue qui nous a aidé à co-construire tout ça et avec notamment le dispositif Garantie Jeune. Donc pour ceux qui ont entre 15, 16 et 25 ans plus tôt, qui sont ni en emploi ni en formation, mais qui s'engagent dans ce dispositif. C'est un accompagnement renforcé, à la fois donc social et puis pour trouver un projet professionnel, le faire aboutir, en échange d'une rémunération qui équivaut au RSA, puisque d'habitude, les jeunes n'y ont pas droit. Voilà, donc c'est tout cet accompagnement. Et JET s'est inséré à l'intérieur de ce dispositif comme une section découverte culture au sein de plein d'autres programmes pour eux. Et juste une précision, pour le moment, donc sur le volet emploi-formation, on a fait 3 sessions. Justement avec plutôt des publics adultes ou mixtes, et puis d'autres vraiment spécifiquement avec les jeunes. Avec les jeunes, il y en a une il y a un an, et puis il y en a une autre qui va démarrer en décembre 2019.
Comme vous l'aurez compris, la garantie jeune, c'est un dispositif d'accompagnement renforcé à la recherche d'emploi dédié aux 16-25 ans. Chacune des promotions travaille sur un projet collectif et pour ce groupe, vous l'aurez deviné, c'est un atelier radio, Radio GJ. Donc je vais vous faire écouter une Radio GJ du 28 novembre 2018. Bonne écoute.
Elsie, Farsidine, les deux Arthur, Aurélie, Corentin, Léonie, Sorel, Marie, Maïwen, Anassi et Cédric. Tous font partie d'un dispositif d'accompagnement renforcé à la recherche d'emploi dédié aux 16-25 ans, la Garantie Jeune. Chacune des promotions de cette Garantie Jeune travaille sur un projet collectif et pour ce groupe, vous l'aurez deviné, c'est un atelier radio, Radio GJ en l'occurrence. Résultat, cette séance de travail à la radio, 28 heures environ au total, pour apprendre à tout faire de A à Z. Choix des sujets, utilisation des enregistreurs, interviews, reportages, montages, animations en plateau. Au-delà de la création de cette émission et de la découverte de l'univers radio, des bons moments passés ensemble aussi, nous espérons que cet atelier a permis à ces jeunes de travailler sur des axes clés dans la recherche d'emploi. Confiance en soi, travail en équipe, esprit de synthèse, prise de parole. Un grand bravo à toute cette équipe Radio GJ de s'être prêtée au jeu. Tous nos remerciements également à Romuald et Céline, animateurs du groupe, pour leur enthousiasme et leur investissement, à la mission locale pour son soutien au projet, à Gustave pour son appui technique aussi bienveillant qu'efficace, à tous les professionnels qui se sont prêtés au jeu des interviews et enfin aux financeurs investis dans l'action via le contrat ville. Bonne écoute à tous.
34 Bonjour chers auditeurs, c'est la Garantie Jeune qui vous parle. Alors c'est quoi la Garantie Jeune ? C'est un accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans dans l'insertion sociale et professionnelle. Pour faire court, on galère un peu à trouver du travail et ce projet de radio rentre dans le cadre de cette Garantie Jeune pour nous faire découvrir différents boulots. L'émission d'aujourd'hui se déroulera en deux parties. La première concernera le rapport au travail entre les différentes générations et classes sociales. La deuxième partie concerne la découverte de métiers. On est donc parti interviewer différents secteurs de métiers, de l'usine à la mairie. Et on va commencer par l'interview de Madame Séverine Missé, sociologue. Bonne écoute.
Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons donc sur Jet FM et nous recevons Séverine Missé, sociologue à l'Université de Nantes, pour lui poser quelques questions par rapport au travail et aux classes sociales.
Bonjour.
Quelle est votre spécialité ?
Alors, je suis maîtresse de conférence donc à l'Université de Nantes, au Centre Nantais de Sociologie. Ma spécialité, c'est la sociologie du travail au sens très large, et puis la sociologie des groupes populaires et du militantisme.
Et dans quel cadre exercez-vous aujourd'hui ?
Donc, pour toute la partie recherche et réflexion, je suis au Centre Nantais de Sociologie, donc qui est un laboratoire qui fait partie de l'Université de Nantes. Et puis, pour la partie enseignement, j'enseigne à l'IUT de Nantes, au département gestion des entreprises et des administrations.
D'accord. Et de quelle manière le travail influence la manière dont une personne se perçoit et comment les autres la perçoivent aussi
Alors ça, la sociologie... est très clair sur le fait que le travail, ça reste un élément absolument central de l'identité. C'est un élément qui est essentiel. Il suffit de penser tout simplement, les très jeunes enfants, quand on leur demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», ils comprennent tout de suite que la question qu'on leur pose, c'est « quel métier tu veux faire ?». Alors que ce n'est pas dans la question, hein, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», ça pourrait être « qu'est-ce que tu veux faire comme loisir ?», « qu'est-ce que tu veux faire comme... » Non, les enfants comprennent tout de suite qu'on leur parle de travail. Et de la même façon que quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», il comprend aussi implicitement qu'il s'agit de travail. Donc c'est vraiment un élément fondateur de l'identité sociale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a éprouvé le besoin de construire ces catégories socio-professionnelles, parce que dès qu'on fait une enquête statistique, on en a besoin pour analyser les réponses des gens. Parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui organise la vie des gens. On sait qu'on n'a pas la même façon de fonctionner selon sa catégorie socio-professionnelle.
Très bien. Et du coup, est-ce que l'ascenseur social fonctionne mieux ou moins bien qu'avant ?
Alors, on a plutôt tendance à considérer que l'ascenseur social fonctionne moins bien aujourd'hui qu'avant, mais en même temps, il ne faudrait pas tomber dans une vision un peu idéalisée en se disant « avant, ça fonctionnait bien, l'ascenseur social, il n'a jamais bien fonctionné. Il y a toujours eu de la reproduction sociale, il y a toujours eu des catégories qui fonctionnent vraiment de façon très fermée. » C'est le cas des petits artisans, des petits commerçants, c'est le cas aussi des agriculteurs.
Très bien, d'accord. Et du coup, les rapports au travail sont-ils différents en fonction des générations ?
Alors, les rapports au travail sont différents en fonction des générations ? Un petit peu, mais beaucoup moins qu'on a tendance à le dire, en fait. C'est vrai qu'on pose souvent cette question-là. Et on voit beaucoup, alors il y a même des termes qui sont employés, la génération X, la génération Y, les millennials, etc. C'est un peu des créations marketing quand même, il faut bien le dire. Et en fait, c'est compliqué de répondre à cette question. Est-ce que les jeunes ont un rapport au travail différent des autres ? Parce que Pierre Bourdieu, un sociologue très connu, disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». C'était une façon de souligner qu'il n'y a pas une jeunesse. En fait, il y a justement des tas de jeunesses différentes qui ont des caractéristiques différentes et donc qui ne vivent pas les mêmes situations et donc qui ne peuvent pas avoir le même rapport au travail. Et en fait, les catégories socio-professionnelles sont un outil nettement plus intéressant pour justement différencier ces rapports au travail que le critère de l'âge, finalement. Ça donne des distinctions qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus significatives que celui de l'âge.
Alors, Séverine Missé, toujours parlant du travail, Pour vous, quelle importance ont pris les diplômes aujourd'hui dans le domaine du travail ?
Alors, on est dans une société qui fonctionne beaucoup, beaucoup sur les diplômes. La société française est très structurée par les diplômes et les diplômes ont pris de l'importance dans toutes les catégories sociales, y compris, par exemple, chez les ouvriers. Il y a beaucoup d'études qui montrent que dans les milieux ouvriers, on a conscience de l'importance du diplôme. On n'est pas toujours armé pour aider les enfants à aller loin, justement, dans leur trajectoire scolaire, mais tous les milieux sociaux ont pris conscience de cette importance du diplôme. Et ça, c'est quand même... alors, c'est pas complètement nouveau, hein, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que c'est le cas, mais c'est quelque chose qui marque nettement la différence avec les plus anciennes générations qui peuvent encore être sur le marché du travail, et qui sont nées dans les années 60 ou 50, par exemple.
Merci. Où en est-on aujourd'hui par rapport à la discrimination au travail ? Sur le plan physique, origine et sexe.
Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent justement ces phénomènes de discrimination, même s'ils ne sont pas forcément faciles à montrer. On a des études qui sont faites par ce qu'on appelle des testings. Donc, on envoie des CV qui sont réalistes, mais qui sont quand même des CV expérimentaux sur lesquels on a modifié seulement une caractéristique. Donc ça peut être on a juste modifié la photo ou alors on a juste modifié l'adresse, on a juste modifié le prénom, le nom. Et donc on les envoie aux entreprises et puis on observe les taux de retour, les taux de convocation aux entretiens, etc. Et donc ces testings très très régulièrement mettent en lumière des phénomènes de discrimination qui peuvent porter sur l'origine, qui peuvent porter sur les caractéristiques physiques et puis qui peuvent porter aussi beaucoup sur le genre. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait, qui sont relativement bien documentées. Et puis, on a aussi d'autres études qui interrogent en fait les gens sur les discriminations qu'ils ressentent. Donc là, c'est une discrimination qui est plus subjective. Et on a aussi quand même des données qui montrent l'ampleur du problème. Donc c'est intéressant de confronter un petit peu ces deux mesures de formes de discrimination. Oh. Va se retrouver sur le marché du travail et qui va expérimenter un taux de chômage colossal, c'est souvent pas les mêmes jeunes.
D'accord. Et quel stéréotype les jeunes ont sur les seniors, vice-versa, en fait, par rapport au travail ?
Alors, il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent entre les générations. Souvent, les jeunes disent des seniors qu'ils sont un petit peu trop rétrogrades, un petit peu trop conservateurs, tournés vers le passé, pas assez au fait des technologies, qui défendent un petit peu leurs acquis, leurs précarés. Et puis j'ai envie de dire, il y a les stéréotypes qui vont dans l'autre sens, hein, c'est que souvent les personnes plus âgées vont regarder les jeunes en disant ils sont trop individualistes, ils pensent qu'à eux, ils sont trop tournés vers ce qui leur apporte des choses, mais pas assez à ce qu'ils peuvent apporter à la collectivité, par exemple. Ils sont trop matérialistes, ils pensent qu'à l'argent, etc. Voilà. Pour prendre un exemple qui a fait l'actualité il y a quelques mois, quand on a parlé de la réforme de la SNCF, on a parlé de la remise en cause du statut de cheminot. Et puis, ils ont essayé de vendre, entre guillemets, leur réforme en disant « Ah, mais le statut de cheminot, on ne va pas l'enlever aux anciens qui l'ont. Par contre, les jeunes qui vont arriver, on va leur donner un autre statut. Et eux n'auront pas un certain nombre de caractéristiques qu'ont les cheminots actuels. » Bon, ben, quand on fait ça, on alimente un petit peu des tensions entre générations, puisque ben, les anciens cheminots qui sont en emploi et qui vont voir arriver les petits jeunes qui remettent en cause leur statut, eh bien, ils ne vont pas forcément les accueillir de façon toujours, toujours positive. Donc voilà, ces stéréotypes entre générations, ils sont aussi quand même parfois alimentés hein, par les politiques de gestion des entreprises.
Bonjour, ici Cédric, vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans l'émission Génération face au travail. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Séverine Misset, qui est évidemment maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes, dont vous venez d'écouter, nous avons réalisé deux interviews sur deux générations différentes qu'il y a sur l'ancienne génération et sur la nouvelle génération. Et sur ce fait, nous avons interviewé Romial, jeune travailleur qui représente la nouvelle génération, donc vous allez écouter tout de suite.
Qu'est-ce que la génération Y pour Marie,
Romial? Bonjour, tout d'abord. La génération Y, ce sont les personnes qui sont nées entre les années 80 et 97 et qui ont, à mon avis, une vision qui a bien évolué du travail au vu de la nouvelle conjoncture économique.
D'accord. Donc, pour vous, quelle est la vision du travail aujourd'hui?
Alors, moi, ça va être ma vision du travail par rapport à ma pratique et ce que je fais, où je suis dans l'accompagnement social. Donc, ma vision, c'est aussi de pouvoir travailler tout d'abord dans des conditions de travail saines. Je pense qu'on travaille pour aussi des raisons alimentaires, mais aussi pour pouvoir s'épanouir. Je pense que c'est aussi un des facteurs importants dans la génération Y qui... pour les jeunes, en tout cas, qui a une grande importance et qui peut permettre aux jeunes de travailler sur une carrière sur du plus ou moins du long terme sans subir.
D'accord. Donc, le marché du travail a-t-il évolué pour vous? Si oui, comment il a évolué?
Alors, je pense que oui, le marché du travail, il a évolué face aussi à l'évolution de la société, de la conjoncture économique, comme je le disais. Aujourd'hui, à mon humble avis, nous souhaitons plus nous ne souhaitons plus avoir de communication descendante, c'est-à-dire qui descend du patron vers les salariés et qui est imposée. Les jeunes aujourd'hui ne souhaitent plus subir. On est plus dans une communication ascendante, c'est-à-dire que l'équipe de salariés puisse avoir la parole, puisse être acteur et au cœur des évolutions professionnelles. Si cette nouvelle génération ne se sent pas impliquée, je pense qu'elle ne trouvera pas de sens. Et sans sens, cette génération se retrouve face à un travail qui est plus subi et non pratiqué avec plaisir et qui a pour but un épanouissement personnel. Donc cela démontre une motivation et une réelle envie d'implication des jeunes sur le marché du travail. Avec le sens qu'ils y mettent. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les jeunes ont une vision différente par rapport aux générations telles que leurs parents, dans le sens où ils n'ont pas forcément les mêmes responsabilités. Certains vont avoir besoin de nourrir leur famille, ont besoin d'un travail pour pouvoir se maintenir en tout cas en place dans cette société. Les jeunes, eux, essayent de faire leur place. Donc ils ne sont pas du tout dans les mêmes attentes et les mêmes recherches. En tout cas, je pense que l'on soit jeune, âgé, très âgé ou très jeune, on recherche tous la même chose, c'est-à-dire de pouvoir s'épanouir au travail. Et je pense que dans chaque catégorie de génération, chaque personne a des points de vue différents, car l'individu reste unique.
Les jeunes ont-ils pour vous, sont-ils moins motivés aujourd'hui à travailler? Et les plus anciens auraient-ils plus de facilité à s'intégrer sur le marché du travail?
Il y a de nombreux jeunes qui vont faire face à de nombreux refus avant de pouvoir avoir la chance qu'on leur donne une expérience qui puisse vraiment travailler et se confronter au marché du travail. Pour moi, les jeunes ne sont pas moins motivés. Ils font simplement face à plus de difficultés et il y a de moins en moins, en tout cas, d'offres pour ces jeunes.
Moi, je suis Aurélie de la Garantie Jeune. Du coup, j'ai une dernière question. À votre avis, existe-t-il un réel clivage entre les nouvelles générations et les plus anciennes? Ou à contrario, existe-t-il différentes jeunesses dans chaque génération?
Alors, je vais répondre à cette question qui me semble un peu difficile, même si une bonne partie de la réponse est dedans. C'est oui et non. Oui, il existe un clivage parce que le marché du travail a évolué. Les générations précédentes ont fait face à un marché du travail qui était plus libéré. Aujourd'hui, malgré tout, les personnes âgées, de nombreuses personnes se retrouvent elles aussi en difficulté dans leur fin de carrière pour pouvoir avoir assez d'années pour cotiser à leur retraite. Donc le clivage existe dans le sens où on a connu deux marchés du travail différents, mais aujourd'hui, les plus vieilles générations sont elles aussi touchées par ce nouveau marché. Donc oui et non pour un clivage. Par contre, il existe bien différentes jeunesses dans chaque génération, parce que comme j'ai pu vous le dire, chaque personne est unique et chaque personne dans la situation qui pourrait être identique ne réagira pas forcément de la même manière. Moi, je vous remercie aussi pour ces questions pleines de sens et pour votre interview et votre engagement sur des questions d'avenir telles que les générations face au travail.
Et moi, je suis Léonie de la Garantie Jeune, je vous remercie aussi pour cet échange qui m'a apporté plein de d'éclaircies sur le sujet et je vous remercie beaucoup. Merci.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur JTFM et vous venez d'écouter l'interview de Romuald qui représentait la nouvelle génération. Et maintenant, vous allez écouter l'interview de Cathy qui travaille à la ressourcerie de Nantes et qui représentera l'ancienne génération, réalisée par mes collègues Cédric, Léonie, Marie et bien évidemment moi-même. À tout de suite sur JTFM.
Bonjour, Cédric de la Garantie Jeune avec JetFM.
Aujourd'hui, nous sommes à la ressourcerie de Lille pour une interview avec Madame Cathy Kigan face aux générations du travail. Bonjour Madame Cathy Kigan.
Bonjour Cédric.
Déjà, c'est quoi la ressourcerie ?
Alors, la ressourcerie de Lille, c'est une association qui œuvre donc sur la réduction de déchets en collectant donc du mobilier et tout ce qu'on peut trouver dans une maison pour leur donner une seconde vie.
D'accord, merci. Et quel est le poste que vous occupez à la ressourcerie ?
Alors moi, l'intitulé de mon poste, c'est chargé de collecte. Ce qui engendre, en fait, nous on collecte en déchetterie, on a 5 camions qui partent en déchetterie. On collecte aussi auprès des particuliers qui veulent se défaire de leur mobilier, qui est encore en bon état et à laquelle on peut donner une seconde vie. Et on collecte aussi du mobilier professionnel auprès des entreprises.
D'accord. Quelle est votre vision du travail aujourd'hui et par rapport à 20 ans ?
Il y en a moins, c'est plus difficile. Il y en a moins. Non, je pense qu'il n'y a pas moins de travail. Ça, je pense que je dois... Mais je vois la difficulté. Alors moi, j'ai une fille qui a 26, j'ai une fille qui a 28 ans. Je vois très bien que le milieu de travail n'est pas aussi aisé que ça a pu être pour moi dans les années 80, où en fait, on trouvait du travail en claquant du doigt.
D'accord. Et est-ce que les jeunes ont-ils besoin d'adopter une aptitude différente pour se positionner sur le marché du travail actuel ?
Alors, je ne peux pas parler pour les jeunes en général. Je pense qu'il y a une attitude de présence au travail. Je pense qu'il ne faut pas oublier. J'ai un peu peut-être des valeurs d'anciens.
D'accord. Les jeunes sont-ils motivés aujourd'hui pour trouver du travail ?
Alors, c'est difficile de dire s'il y a une vraie différence. Je pense que peut-être certains vieux sont pénalisés par justement le numérique pour la recherche de travail, par exemple, alors que les jeunes sont moins pénalisés par ça.
À votre avis, existe-t-il un réel clivage entre les nouvelles générations et les plus anciennes ?
Alors, peut-être. Je pense qu'une des difficultés, alors je vais faire ma britannique, hein, mais une des difficultés, ce que je vois si je compare les deux marchés de travail, c'est que le marché de travail britannique ne va pas forcément demander une expérience ni une formation pour démarrer quelque chose. C'est vrai que sur le marché de travail en France, il est difficile, je pense, pour des jeunes de se dire « Ah ben, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de formation, mais je suis prêt à apprendre ». Et je suis prêt à essayer. Et je pense qu'on est dans un climat en France où on a besoin de formation, on a besoin d'avoir de l'expérience avant que les portes s'ouvrent vraiment. C'est vrai que c'est un peu quelque chose qui... C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Comment se présenter à un poste en disant « je n'ai pas d'expérience ». Si personne vous en donne, je ne vois pas comment vous pouvez en avoir.
Alors là, nous arrivons à la fin de notre interview avec Madame Cathy Kigan. Donc, Madame Cathy, nous vous disons, toute l'équipe de la garantie du jeune et du JTFM, vous disons merci.
Bonjour, on est de retour au plateau du JTFM 91.2. C'était Alpha Blondie avec son titre « Travailler, c'est trop dur » qu'on venait juste d'écouter. On a choisi cette musique, moi, Anassi, Farsidine et Arthur, parce que travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau, demander la charité c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Pour nous, chercher du travail c'est trop dur et c'était notre projet de passer aussi ce message. Heureusement, il y a des domaines où c'est moins dur, par exemple la logistique. Et on va faire écouter Benjamin Ledoux qui travaille à Decathlon dans le domaine du logistique qui est préparatoire de commandes. Soyez attentifs et écoutez Benjamin Ledoux. Merci.
Bonjour, Monsieur Benjamin.
Bonjour.
Tout d'abord, pourrais-tu nous expliquer où nous sommes actuellement ?
Donc ici, nous sommes à Decathlon, un des plus grands entrepôts de la région. Donc là, on prépare des commandes pour tous les entrepôts de Loire-Atlantique, Vendée un peu et dans la région, quoi. On est dans la zone industrielle de Sainte-Luce-sur-Loire. On est à la Belle Étoile.
C'est un espace de travail immense. Tu arrives à t'y retrouver ?
Au début, c'est dur de s'y retrouver. Au début, c'est vrai que c'est énorme. C'est un grand entrepôt. Tu as plusieurs cellules. Une cellule, c'est un grand emplacement. Puis à force, ça fait 6 mois que je travaille, donc à force on s'y retrouve.
Quel est ton rôle, quel est ton métier ici?
Alors ici, je suis préparateur de commandes. Donc je prépare des commandes pour des magasins. Donc ça s'appelle du picking, prélèvement à l'article. Alors le prélèvement à l'article, c'est on scanne, je suis avec mon petit chariot. Donc au début, on commence comme ça. On a une petite tablette pour nous dire les articles qu'il faut prendre. Une adresse, le code article, le contenant et tout ça. Il y a une plaque RFID donc, qui nous sert à biper des petites puces pour montrer que l'article est bien dans le box, dans le bac. Donc après, à force, on fait toute la rafale. Donc une rafale, c'est une commande. On fait toute la commande et puis après, on envoie ça au buffer. Donc le buffer, c'est ce qui sert à trier les bacs. Et qui après nous les on les prend et on les emmène au quai pour les charger dans le camion.
Donc tu es en alternance en entreprise et en autre formation?
Oui, je suis en formation avec l'Aftral. Je suis en alternance. Donc la première fois que j'étais en alternance, je passais mon KSS 1. Je passe mes KSS, c'est une chance. Et puis je viens ici pour travailler. Et puis ma formation se passe plutôt bien. Donc,
c'est quoi le rythme?
Le rythme, alors là, c'est franchement le rythme. La dernière fois, j'étais resté 4 mois en entreprise. Après, je suis retourné 2 semaines. Et après, là, ça fait 3 semaines que je suis... Ça va faire un mois que je suis en entreprise et là, j'y retourne la semaine prochaine. Donc c'est... En fait, on ne sait pas.
Si tu devrais nous expliquer une journée type?
Une journée type, c'est que... C'est du prélèvement à l'article, c'est... Préparation de commande, c'est on prend notre chariot. Par exemple, je suis dans l'équipe Yellow. Donc l'équipe Yellow s'occupe du secteur cycle, donc tout ce qui est vélo, pièces de vélo et tout ça, les casques et rollers et randonnée montagne. Donc ça veut dire on prend tout ce qui est chaussures de randonnée, polaire et du coup on se met dans un soit dans cycle, soit en montagne. Et du coup, on fait nos rafales pendant toute la journée. On essaye de passer le plus de rafales et se mettre à jour. Donc, par exemple, on a dans la journée, on doit avoir 5400 articles et on doit les faire. On doit faire toutes les commandes.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier?
Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est charger et décharger les camions. Déjà, les deux, une, parce qu'on a la petite machine et c'est quelque chose d'assez... On a assez une pression et moi j'aime bien la pression. Faut être rapide parce que on a qu'une heure pour charger et décharger un camion. Après ça dépend des fois les articles, les bacs ou les trucs qu'il y a à charger dans le camion, mais normalement ça le fait en une heure. Mais c'est ce que j'aime le plus dans mon métier.
Et qu'est-ce qu'il y a des choses que tu aimes pas dans ton métier?
C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça un petit peu désagréable, c'est le picking. Parce que c'est long. Des fois, il y a des commandes qui sont un petit peu énervantes. Parce que c'est petit. Des fois, c'est 30 articles pour 15 adresses et c'est petit. Nous, on aime quand c'est du, par exemple, 300 articles pour du 100 et quelques articles, pour 100 et quelques adresses. C'est vrai que le picking, c'est assez embêtant.
Est-ce que tu sais si tu vas rester travailler ici après ta formation?
Non, je ne sais pas du tout. Decathlon, au début, nous ont dit qu'ils ne cherchaient pas des CDI. Ils cherchaient juste à former des gens, donc à former en préparateur commande. Après, si on travaille bien, je crois qu'il y en a un qui a été retenu sur les 4 ans qu'ils ont fait ça. Il y en a un qui a été retenu en CDI. Après, je ne sais pas. Après, c'est à voir ce qu'ils me proposent aussi.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut travailler dans la logistique?
De ne pas lâcher, de chercher dans les entrepôts, parce qu'il y en a beaucoup, d'aller surtout dans les zones industrielles, parce que les zones industrielles, c'est où il y a le plus de logistique. Aller chercher aussi, par exemple, les entrepôts de Leclerc, les entrepôts de Super U. Essayer d'aller chercher ça, parce qu'ils essayent de trouver souvent des gens en intérim ou en CDD, faut pas lâcher, faut faire des formations surtout, chercher les KSS 1-3-5, c'est ce qui t'ouvre beaucoup de portes. Parce que quand on a les KSS 1-3-5, on trouve ça partout, parce qu'ils cherchent vraiment des gens avec le CACES quand on est en logistique.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
Oui, bonjour, vous êtes toujours sur DTFM 91.2. Nous venons juste d'écouter Benjamin Ledoux qui nous a fait part de son parcours et de sa formation et de tout ce qu'il fait durant ses heures de travail, la manipulation des outils de manutention qui sont nécessaires de nos jours pour intégrer le domaine de la logistique. La formation CACERS donne accès au certificat d'aptitude à la conduite en sécurité qui permet d'obtenir différents postes dans le domaine de la logistique.
Vous êtes bien sur Jet FM, Retour vers le futur 5. Donc j'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Donc maintenant c'est la pause musicale et je vais vous faire écouter Kundalumping de Balladur. Bonne écoute. C'était Kundalumping de Balladur. Vous êtes bien dans l'émission Retour vers le futur 5 du Sonolab. Bon, j'espère que cette musique vous a plu. J'essaye de vous faire découvrir aussi des groupes pas trop connus français, parce que c'est ça, GTFM, ce n'est pas de la musique commerciale. Et j'espère que cela vous plaît en tout cas. Maintenant, on va revenir sur la garantie jeune. Et je vais vous faire écouter un extrait du 12 juin 2019 sur des métiers atypiques pendant cette initiation de Garantie Jeune à la radio. Ils se sont intéressés à plusieurs métiers, dont des métiers atypiques. Et cet extrait va consister à ça comme le métier de youtubeuse et la place de la femme sur YouTube. Bonne écoute.
Vous êtes toujours sur Radio Métier. Après cette pause musicale, on va poursuivre avec Nora Mignon, youtubeuse de 21 ans. Elle est étudiante en histoire de l'art et a créé sa chaîne YouTube il y a 6 ans. À présent, on va vous laisser avec son interview. J'aimerais savoir quel a été votre parcours avant d'être youtubeuse, bien entendu.
J'ai commencé YouTube, j'allais entrer en première L, donc voilà. Donc j'ai toujours été dans tout ce qui est littéraire, histoire des arts. J'ai fait ça pendant mon lycée, j'ai eu un bac en spécialité histoire des arts. Et après, j'ai fait une licence histoire de l'art. Et là, je suis en master valorisation des nouveaux patrimoines, qui est un nom très compliqué juste pour dire que je parle de... Enfin, j'essaie d'étudier la culture et le patrimoine en général. Et c'est pour ça, je fais ces études-là pour notamment être médiatrice culturelle. Donc, c'est-à-dire faire des visites, être guide, faire des ateliers, des conférences, ce genre de choses. En fait, juste, c'est un peu comme ma chaîne, hein, c'est-à-dire faire apprendre les choses aux gens de la manière la plus simple et complète possible. Et c'est vrai que c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai fait sur ma chaîne, c'est parler de l'histoire tout en rigolant un peu, ne pas dramatiser autour de ça.
Comment en êtes-vous arrivé à faire des vidéos sur YouTube ?
Eh bien, j'ai commencé à faire des vidéos parce que tout simplement, j'en regardais beaucoup. J'en regardais pas mal de chaînes. J'ai un peu tatillonné entre différents sujets. Alors, au début, c'était plutôt la beauté parce que c'est ce qui se faisait beaucoup et c'est ce que je regardais beaucoup, 13-14 ans. Après, je me suis plus orientée vers des montages, des trucs un peu artistiques. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de chaîne sur l'histoire. Nota Bene n'existait pas, les revues du Monde n'existaient pas. Et je me suis dit que comme moi j'aimais bien ça, j'ai un petit peu médité sur le sujet et je me suis dit pourquoi pas, au départ je voulais faire que sur la mode dans l'histoire. Et puis finalement je me suis dit pourquoi pas parler d'histoire tout court et puis c'est venu comme ça.
Comment vous réalisez vos vidéos ?
Alors avant ça se faisait un peu au feeling, maintenant j'ai un planning, c'est-à-dire que chaque mois je sais que je vais faire telle vidéo, c'est plus simple pour moi. À partir du moment où j'ai mon sujet, je commence mes recherches, notamment sur Internet, c'est vrai, parce que je n'ai pas le temps de regarder dans des bouquins. C'est comme si c'est pas à temps plein, je fais ça sur mon temps libre. À partir de mes recherches, j'écris la vidéo, j'essaie de construire quelque chose. Et puis ensuite, je tourne ce que j'ai à tourner. Je cherche les images, c'est la partie la plus longue et complexe et la plus importante aussi pour animer un peu les vidéos. Et donc je monte ensuite les vidéos, ce qui me prend aussi pas mal de temps, mais finalement c'est plus les images qui me prennent le plus de temps. Et je la publie, et voilà, globalement.
Quel obstacle rencontres-tu en tant que femme sur YouTube ?
C'est moins le fait d'être une femme sur YouTube que d'être un petit YouTuber ou une petite YouTubeuse. En fait, sur YouTube, on est très peu visible, et quand on est très peu visible, on reste très peu visible. C'est assez compliqué. Tant qu'on n'a pas, en fait, par exemple, une grosse vidéo qui vraiment déchire tout, entre guillemets, ou des youtubeurs qui parlent de nous, on va rester invisible sur YouTube. Et ça, c'est vraiment très frustrant quand on prend le temps de faire des vidéos et qu'on sent qu'il y a une communauté qui est avide, entre guillemets, de ce qu'on fait. Et c'est toujours très plaisant. Et des gens qui nous disent « tu mériterais plus d'abonnés », sauf que pour ça, on ne peut rien y faire à part partager les vidéos. Et par exemple, le fait que je ne sois pas monétisée, c'est parce que je n'ai pas assez de visibilité. Et le problème, c'est que si on n'est pas monétisé, on n'a pas de visibilité. Donc ça tourne un peu en rond. Donc ça, pour moi, le gros obstacle, ça reste YouTube en fait en général et son algorithme qui demande beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, beaucoup de vues pour être visible. Ce qui est un peu triste parce qu'on est plusieurs YouTubeurs à Nantes à faire des choses sur l'histoire, la culture. Après, le fait d'être d'une femme sur YouTube, moi, je ne le ressens pas beaucoup dans le sens où j'ai encore une fois une petite visibilité, ce qui fait que j'ai moins de commentaires, donc moins de gens assez insupportables, même si j'en ai encore récemment, il y en a un qui m'a énervée, parce que il y en a beaucoup qui pensent que je ne suis pas légitime pour parler de telle ou telle chose. C'est moins le fait d'être une femme et plus le fait que je parle de choses voilà, de manière assez détendue. Je ne sais pas à plein temps, donc je ne fais pas des recherches les plus abouties possibles, telles que je le voudrais. Et là-dessus, les gens sont très critiques. Voilà, on m'a déjà dit que je faisais du mauvais Florence Porcel en plus vulgaire. Donc Florence Porcel, qui est une chaîne sur l'astronomie, qui encore une fois fait ça à plein temps. Mais moi, en tout cas, je ne connais pas d'obstacles, mais je sais que les obstacles en tant que femme sur YouTube existent. C'est juste que moi, effectivement, je ne vis pas.
Bah, par rapport au type de commentaires, par exemple, tu nous disais que tu n'en recevais pas forcément beaucoup, mais comment tu gères les mauvais, par exemple ?
Alors, en fait, au niveau des commentaires, soit j'ai des ce qu'on appelle donc des trolls, des gens qui vont dire « va retourner faire la vaisselle » ou « je coucherai bien avec toi ». Moi, je dis ça de manière polie. Mais ça, j'ignore. Alors, soit c'est assez rigolo, c'est mes abonnés qui me défendent, qui me disent « mais ton commentaire, en gros, n'a rien à faire là ». Donc, c'est assez rigolo. Soit, en gros, bah, où je les signale, où je les supprime, parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Je sais que sur ma vidéo sur les francs-maçons, j'ai eu pas mal de commentaires complotistes. J'ai fini par les supprimer parce que ça commençait à m'énerver de voir des gens racistes, antisémites qui commençaient à partir dans des délires de diablerie. Après, il y en a aussi qui me mettent des commentaires un peu plus insidieux au niveau de la critique. Il y en a qui sont construits. À ce moment-là, je leur réponds, voilà, il n'y a pas de souci. D'autres, en fait, qui critiquent plutôt ma manière de parler, ma manière de me comporter. Par exemple, là, récemment, ce qui m'a énervé, c'est sur ma vidéo sur Mozart, on m'a dit que je ne prononçais pas bien Wolfgang, parce que normalement, il faut prononcer à l'allemande, sauf que je ne parle pas allemand. Donc, il estimait que comme je ne parlais pas allemand, je n'avais pas le droit de parler de Mozart, parce qu'en gros, ça signifiait que je ne faisais pas de bonnes recherches.
En revenant sur justement la place des femmes sur YouTube, je voulais poser une question par rapport sur des chaînes comme mademoiselle.com. De nombreuses vidéos sur la sexualité ou le corps des femmes ont été démonétisées. Qu'est-ce que tu penses de la censure qui est exercée envers les femmes sur YouTube ?
Pour mademoiselle.com, je ne suis pas trop, mais je sais que c'est surtout Charlie Danger qui en a fait les frais. Je sais que c'est une autre histoire aussi, on avait fait les frais parce qu'elle voulait parler de masturbation, mais c'était au niveau d'un récit historique, enfin, l'espèce d'anecdote qu'elle a voulu raconter. Mais Charlie Danger, que je sais qu'elle a été censurée sur sa vidéo sur l'histoire des règles. Récemment, qu'elle se censurait elle-même, elle s'auto-censurait parce qu'elle voulait faire un générique avec les seins nus. C'est ce genre de choses qui m'énervent beaucoup, parce que pour moi, c'est des sujets importants, c'est des sujets qui ont aussi le mérite d'être parlés, notamment l'histoire des règles. Moi, j'ai appris plein de choses grâce à sa vidéo. Ça sensibilise beaucoup de gens aussi, que ce soit les hommes ou les femmes, à ce problème. Elle a en plus ouvert sa vidéo sur le problème des règles aujourd'hui, comment elles sont considérées, etc. Et cette censure-là m'énerve énormément, parce qu'effectivement, ça concerne quand même beaucoup les femmes, dans le sens où ça traite de problèmes féminins, que ce soit les règles, que ce soit les seins qui ont été sexualisés, et qui, effectivement, dans un tableau, ça passe, mais en vrai, ça ne va plus passer. Je sais que bientôt, justement, je vais faire une vidéo sur la nudité qui va sortir, là, je suis en train de la préparer, la montée, où, justement, j'essaie de parler de ça, parce que ça m'énerve beaucoup, en fait. Pour moi, c'est illogique, et c'est véritablement de la censure, et pour moi, ces créatrices ne méritent pas de s'auto-censurer pour créer. Et en plus, en tant que femme, je trouve ça justement intéressant qu'elles abordent des problèmes et des sujets féminins. Alors, c'est bien parce qu'il y a des youtubeurs qui les soutiennent, il y a une grosse communauté qui les soutiennent, mais YouTube derrière ne suit pas. Et c'est assez, assez rageant, il faut le dire, de voir des gens qui travaillent pour faire ce genre de contenu et qui derrière doivent se dire « bah non, j'ai été démonétisée, bah non, je suis obligée de me censurer parce que sinon ça passe pas, je suis obligée d'être démonétisée. YouTube démonétise à tout va, c'est insupportable. C'est presque une liberté de pas être monétisée parce qu'au moins j'ai pas peur de me prendre des strikes ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui se font censurer, qui se font démonétiser pour des raisons mais invraisemblables. Et les femmes, c'est vrai que ça fait assez longtemps que ça dure. Et ça commence à être... Déjà que les femmes sur YouTube, voilà, sont pas les plus nombreuses, même si elles font de plus en plus leur place. Mais si en plus on censure des sujets qui pourraient être intéressants et qui sont pas du tout choquants ni rien, ça commence à être assez fatigant.
Vous écoutez bien Jet FM, Retour vers le futur 5, spécial Garantie Jeune. C'est vrai qu'être youtubeur, ce n'est pas vraiment facile, c'est accessible à tout le monde, c'est vrai, mais comme c'est un nouveau métier, on ne connaît pas vraiment les limites. On peut être tous youtubeurs, mais à cause de l'algorithme, certains youtubeurs ne sont pas assez visibilisés, donc ne gagnent pas d'argent. C'est plus une passion, et tant mieux si cela devient un métier. Même si je suis seule aujourd'hui, on va quand même écouter Laure Audy, où elle explique son parcours et son travail au Sonolab lors d'une interview. Bonne écoute.
Alors moi, je m'appelle Laure Audy. À la base, moi, j'étais bénévole à Jet FM. Et puis, petit à petit, je suis devenue salariée dans le Sonolab. qui est un peu le secteur d'animation socioculturelle. On parle davantage d'éducation, d'action culturelle et d'éducation aux médias. Voilà, donc moi, mon rôle, en fait, c'était de venir renforcer l'équipe. Voilà, parce qu'à la base, c'est ma collègue Julie Ozou qui a créé le dispositif du Sonolab qui existe depuis 4 ans et demi maintenant, presque 5 ans. Et puis, bah, l'activité a grossi de plus en plus. Et donc, du coup, je suis venue en renfort depuis l'année dernière. Mais à la base, je suis psychologue. Voilà. Donc, j'ai fait un tout autre métier pendant 10 ans. J'ai travaillé dans beaucoup d'institutions. Où j'ai fait beaucoup, beaucoup de trucs, donc je ne vais pas tout lister. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours été intéressée. J'avais fait de l'animation avant. Et puis, moi, j'étais contente de pouvoir allier, justement, la question de la parole, mais plus avec un outil, une médiation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former au Sonolab.
Et en ce qui concerne le Sonolab, est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus, nous dire comment est née l'idée ?
Alors, comment est née l'idée ? Je dois te dire que j'y étais pas à l'origine, mais je sais que c'est Loïc, le directeur de la radio, qui avait cette idée-là. Lui, il a toujours eu à cœur parce que, en fait, à Jet FM, il y a une grande logique de formation. C'est vraiment, nous, on fait de l'éducation populaire. Et donc, dans cette radio, on reçoit beaucoup de stagiaires et on aime beaucoup transmettre, en fait, notre passion de la radio. Et on est convaincu que c'est un outil qui va au-delà de la simple production de contenu, en fait. Voilà, que c'est un outil qui est intéressant pour les gens parce que ça permet de travailler l'écoute. Voilà, ça permet de travailler la question de la prise de la parole. Donc il y a plein de choses en fait qui se tissent autour de ça. Et donc Loïc, lui, il a eu cette idée de développer vraiment un axe éducation aux médias dans la radio. Et donc il a fait un peu la mouture du projet. Donc je pense que ça c'était il y a 6 ans. Et puis finalement ils ont obtenu des financements. Et donc Julie est arrivée parce qu'à la base Julie, elle faisait de l'action culturelle mais dans le cinéma. Et puis finalement, elle était très intéressée pour transposer cette expérience à la radio. Donc elle est venue mettre en place ce dispositif. Donc pour expliquer, le Sonolab, en fait, c'est des ateliers de création sonore. Donc on fait soit du fictionnel, donc des fictions, c'est-à-dire qu'on fait plus des histoires, soit on reprend des albums de littérature jeunesse ou même des bandes dessinées et on les refait en son, soit on imagine les histoires. Et on fait les bruitages, les ambiances, etc. Soit on fait plutôt des ateliers d'orientation journalistique. Donc ça, c'est un peu ce que vous faites là, hein, dans le micro-quartier. C'est-à-dire qu'on vous apprend à utiliser les enregistreurs, mais surtout on vous apprend à construire une émission, à construire une interview, à avoir un angle. Vous avez dû parler de ça, un angle pour interviewer les gens, etc. Et puis on a aussi un axe un peu plus documentaire, un peu plus de témoignages. Quand on travaille avec des personnes âgées, par exemple, parce que ça nous arrive, on a fait un projet, enfin Julie a fait un projet avec des gens qui avaient entre, je crois, 88 et 94 ans. Dans un CCAS à Couëron. Et donc là, c'était plus des témoignages de leur part où ils ont recueilli en fait, des témoignages de comment ils étaient, eux, adolescents. Voilà. Donc c'est un peu... Donc je me suis un peu perdue. Mais donc, pour resituer, nous, on propose ce type d'atelier. Et du coup, c'est pour un public de 6 à 100 ans, même plus si, voilà, si affinité, quoi. Et donc, le principe, c'est vraiment de s'adapter à chaque groupe, chaque demande. On travaille avec des scolaires. Donc là, on peut travailler en école primaire et puis en collège et en lycée. Mais on travaille aussi avec des publics, ce qu'on appelle les publics dits empêchés. Bon, ce n'est pas un très joli terme, mais c'est voilà, tous les publics qui ne sont pas dans un cursus ordinaire. Donc on travaille avec des jeunes de SECPA, en maison d'arrêt, avec des mineurs isolés. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On travaille aussi en hôpital de jour. Enfin voilà, la liste est longue. Mais la radio, ça permet ça. Ça permet en fait de travailler avec tout le monde.
Très complet comme réponse, merci beaucoup. Et du coup, ton expérience de psychologue te sert. Comment est-ce que tu es arrivée à passer de ton ancien métier à celui d'animatrice ? Tu m'as dit que tu avais fait de l'animation. Est-ce qu'il y a eu des formations aussi ?
Alors, à la base, j'ai fait de l'animation, tu vois, après mes études au lycée. J'avais 17 ans, j'ai fait le BAFA. Moi, j'ai toujours été intéressée par la dimension de création. J'ai fait du théâtre de rue. Je me suis toujours cherchée un petit peu de ce côté-là. Et puis, à côté de mes études, en fait, j'ai travaillé dans l'animation les mercredis, petites vacances, dans des centres de loisirs. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé dans des centres socioculturels qui ne faisaient pas de l'animation de consommation. On n'allait pas au bowling, ni au cinéma. En fait, l'idée, c'était vraiment de mettre de la pédagogie dans tout et même dans l'aménagement du lieu. Donc, en fait, en parallèle de mes études, j'ai toujours fait le lien entre ce que proposait l'animation et mes études parce qu'il s'agissait de penser les choses pour que ce soit le plus adapté possible pour l'enfant ou l'adolescent, mais surtout pour qu'il puisse s'épanouir dans un cadre sans être toujours contenu par l'adulte, en fait. L'idée, c'était vraiment de l'autonomiser au maximum. Donc, même, j'ai envie de dire que c'est parce que j'ai fait de l'animation que je suis devenue psychologue. Voilà. Parce qu'on avait, en fait, on avait aussi, dans le centre social où je travaillais, on avait un partenariat avec les gens qui faisaient le soutien scolaire. Et les enfants qui faisaient le soutien scolaire, ils étaient obligés de venir au centre de loisirs le mercredi matin. Et donc, on avait aménagé des ateliers pédagogiques, en fait. Donc, ce n'était pas par groupe, c'était mixte. Et donc, du coup, on devait proposer des contenus pédagogiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les ombres chinoises, voilà, les contes, etc. Voilà. Et en fait, si tu veux, de l'œuf ou de la poule, je ne sais pas trop. Je pense que les deux sont toujours construits en même temps, parce que moi, j'ai toujours adoré la littérature jeunesse. Donc, à côté de mes études, j'ai créé une association de littérature jeunesse pour aller lire dans la rue, dans les quartiers, etc. Donc, si tu veux, je pense que tout s'est toujours noué ensemble et que j'avais un intérêt pour les personnes, pour la différence de chacun, mais j'avais aussi de l'intérêt pour la littérature et de ce que ça pouvait apporter aux gens. Et donc, une passion pour la langue, pour le langage et pour la voix, parce que moi, j'ai toujours écouté la radio, c'était ma télé à moi. Donc, si tu veux, je pense que ça va ensemble, en fait. Et puis, bah, la vie a fait que, du coup, je me suis mise à faire de la radio, il y a 8 ans maintenant, mais en autodidacte, hein, j'ai appris toute seule. Et c'est comme ça que j'ai connu Jet. Voilà, parce qu'il fallait quand même que j'apprenne à faire du montage et des choses comme ça. Et du coup, pendant 6 ans, j'ai créé un documentaire qui m'a accompagnée tout le long de mon chemin. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée au Sonolab, parce que mon documentaire, ça m'a permis de me former. Et puis après, voilà, j'ai demandé à faire un stage ici, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée. Donc on n'est pas toujours obligé de faire un parcours conventionnel pour faire ce qu'on a envie, en fait. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question.
Si, très bien. Et est-ce que tu peux me parler un peu des bons côtés, des difficultés de ton métier?
Donc des bons côtés...
D'animatrice radio, je veux dire.
Et de... Oui. Alors moi, mon métier, c'est pas animatrice radio, parce que par exemple, Alexandra qui vous accompagne, elle est journaliste, on peut considérer qu'elle est animatrice radio. Moi, je me considère pas comme animatrice radio, voilà, je suis chargée d'action culturelle. Alors, les bons côtés, c'est que en fait, ça se ressemble jamais, ce qu'on fait. Puisqu'en fait, même si on peut proposer des projets similaires, en fait, c'est jamais les mêmes enfants, les mêmes adultes. Et puis, on a plein de projets différents. Donc ça, c'est vraiment passionnant, parce qu'en fait, on ne s'ennuie pas. Ça peut être aussi l'inconvénient, parce que des fois, en fait, on est un peu schizophrène, quoi. C'est-à-dire que des fois, dans une semaine, on a 5-6 projets. Du coup, on peut se perdre un peu. Donc ça demande quand même... Et ça, c'est vrai que c'est ce que j'ai appris à la radio, c'était une difficulté. Bon, le boulot de psychologue, ça demande énormément de rigueur et de travail. Mais je dirais que c'est pas la même logique de temps. À la radio, les choses sont très speed quand même. Donc il faut être hyper carré, hyper rigoureux, et il faut, voilà, faut être en forme, il faut gérer quand même son rythme de vie, parce que si t'es un peu trop fatigué, tu peux vite faire des erreurs. Donc ça demande énormément de rigueur. Moi, je dis toujours que ça demande de la plasticité cérébrale, quoi. C'est vraiment un truc que j'avais découvert en stage ici, où je me disais, oh la vache, ça demande quand même aux gens d'être hyper concentrés, et puis de pouvoir avoir plein de cases dans sa tête pour tout mettre, quoi. Donc, des fois, on est un peu saturé. Voilà, c'est vrai qu'avec les projets du Sonolab, c'est vrai qu'il y a des semaines qui sont difficiles quand même, parce que des fois, on peut enchaîner 3-4 projets différents dans la journée. Voilà. C'est rare, hein, parce que je vois Sarah qui fait des grands yeux, mais c'est vrai que ça peut arriver. Surtout à Julie, parce que moi, je suis là en renfort, donc je suis encore... Bon, je reprends son poste l'année prochaine, donc là, je vais avoir un peu plus de charge de travail. Donc, je vais découvrir encore plus ça. Dans les points, je vais alterner points positifs, points négatifs. Dans les points positifs, bah, c'est que c'est hyper créatif. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même un champ libre énorme pour faire des créations avec les gens. Et même après, c'est super de pouvoir mettre en valeur la voix des gens. Et moi, j'aime ça, en fait, c'est mettre en valeur ce qui est dit et de pouvoir faire un petit habillage qui fait que les gens, ils sont super contents de s'écouter, ils sont fiers d'eux, en fait. Donc ça, c'est hyper valorisant. Et dans les points négatifs, bah, c'est que des fois, on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur pour faire des montages ou aussi pour répondre à des appels à projets, parce qu'en fait, l'activité du Sonolab, elle est subventionnée. Donc, ça demande aussi de faire beaucoup de paperasse, en fait, de bilan, etc. Donc, des fois, ça peut être... Ça, c'est pas la partie la plus intéressante, bien que pour l'instant, je la trouve intéressante. Peut-être dans 4 ans, ça me lassera plus, cette partie-là. Mais pour l'instant, j'aime bien.
Et du coup, pour continuer sur le Sonalab, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui t'a marqué dans le cadre du Sonalab ?
Je réfléchis parce qu'il y en a plein. Bah, moi, un moment qui m'a marqué, c'est vraiment le premier atelier que j'ai fait toute seule dans une école primaire à Saint-Herblain. Ça m'a marqué parce que c'était un tout nouveau boulot, que je vivais mon rêve en fait. Et du coup, je me rendais compte de ça en fait, que je vivais mon rêve. Et que j'avais beaucoup de chance. Et en fait, c'était un groupe d'enfants qui était très imaginatif, qui était vraiment super. J'ai eu beaucoup de chance de commencer avec eux. Et en fait, ouais, cette anecdote-là, c'est ça. C'est que j'étais hyper contente de... Je ne sais pas comment dire. C'était la joie et la quiétude que j'avais à la fois de réaliser ce projet. Puis j'ai été super contente du résultat. Il y a un groupe qui a travaillé sur la question du racisme avec une histoire sur Nina Simone. Et on a fait quelque chose de très poétique... Enfin voilà, c'était pas enfantin en fait. Et du coup, j'étais super contente d'avoir pu faire quelque chose d'aussi mature avec des enfants de CM1, quoi. Et ça a été un plaisir partagé. Ouais.
Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire ton métier ?
Alors, quel conseil je donnerais ? Eh ben, d'être curieux, déjà, c'est important, qu'il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des radios pour se former. Parce que. Pour t'expliquer aussi, moi au début, quand je suis devenue bénévole ici, c'était pour finir mon documentaire. Et en fait, quand je suis venue, j'avais tout de suite dans l'idée, enfin, en fait, je m'étais dit, tiens, je vais faire une émission de radio directe. Et en fait, pas du tout. Quand je suis arrivée, j'ai été hyper intimidée. Ce qui fait qu'en fait, au final, j'ai fait de la technique, comme tes camarades, là. Et j'ai fait ça pendant un an, sur la quotidienne, justement, avec Pascal, le collègue d'Alexandra. Et en fait, ça m'a énormément formée. En fait, moi, je dirais qu'il faut être curieux. Faut prendre du temps pour se former, mais faut pas être pressé non plus. Moi, je trouve que la radio, c'est hyper bien de découvrir la technique, de prendre du temps, de regarder les autres faire. Voilà, ça demande beaucoup de maturation. Et puis, d'oser faire, en fait. D'oser faire, d'oser se former, et puis d'essayer, c'est-à-dire de bidouiller des trucs, de dire tiens, là, je vais faire une petite minute de fiction sonore, tiens, je vais essayer de faire un jingle, parce que c'est dur de prendre la parole au micro. Enfin. C'est quand même un exercice difficile. Et je dirais que c'est aussi avoir la force de se réécouter pour voir les défauts de comment on s'exprime, parce qu'en fait, on s'améliore toujours. Et on a tous... Moi, là, je suis sûre quand vous allez réécouter, je dis plein de fois « voilà » ou « du coup ». Bon, c'est mes défauts à moi. C'est comme ça, j'essaie de le corriger, mais ça ne marche pas toujours. Et donc, il faut vraiment se réécouter pour pouvoir se corriger. Et après, du côté de l'animation, je pense qu'il faut avoir une expérience, il faut passer son BAFA. Et puis, il faut vraiment faire de l'expérience dans l'animation pure, pour voir comment on gère un groupe d'enfants, etc. Et puis après, il faut demander des stages, et puis il faut y croire, quoi. Parce que le dispositif du Sonolab, c'est quelque chose de rare. Ça n'existe pas partout, en fait. Moi, j'ai beaucoup de chance, en fait, d'en être arrivée là et d'être payée pour ça. Voilà. Parce que les places sont chères, en fait.
J'espère que cela vous a plu encore une fois. Je trouvais ça intéressant de mettre cette interview parce que ça me touche énormément, je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici, parce que vraiment, j'en apprends tous les jours, et on me laisse énormément de liberté et de responsabilité, mais aussi parce que c'est intéressant de voir le parcours de vie de chacun et se rendre compte qu'on ne peut pas forcément tout calculer et qu'il y a beaucoup de hasard dans la vie. On arrive à la fin de l'émission. Retrouvez le podcast de l'émission sur le site du sonolab.fr et en rediffusion le dimanche à 11h. Au revoir.